Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Jean du voyage, la seule évocation de ce mot suffit à provoquer chez les uns crispation ou chez les autres fascination. Les gens du voyage, surnom assez poétique, pour des réalités de vie très variées et des communautés très diverses, Roms, Tziganes, Manouches, etc. Qui sont ces gens du voyage? Combien sont-ils en Midi-Pyrénées? Comment vivent-ils? Quelles sont leurs croyances? Ou ont-ils quelque chose à nous apprendre, et ce même au sein de l'Église? Réponse ce matin. Voilà pour cette émission, donc gens du voyage, qui sont-ils? Je reçois ce matin donc un certain nombre de personnes en plateau, voilà que je perds mes notes. C'est la première fois que ça m'arrive, c'est pas grave. On va vous présenter les uns les autres. Et ben on va commencer tout de suite du coup avec vous, docteur Giraud.
Voilà.
Giraud, pardon, excusez-moi. Docteur Giraud, sur les digues, alors je disais en fait en introduction donc les gens du voyage, c'est comme un terme générique qui recouvre un certain nombre de réalités. Voilà, merci beaucoup Christophe. Début d'émission un peu difficile, merci de votre patience. Donc on reçoit ce matin le père Vincent Bassereau, vous êtes aumônier des gens du voyage pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Frère Daniel, vous êtes frère des écoles chrétiennes, vous êtes ancien aumônier national des gens du voyage. Bonjour.
Bonjour.
Docteur Giraud, donc vous êtes médecin et fondateur du CCPS, on verra ce que c'est. Et puis Dali, vous êtes mère de famille donc, et membre de l'aumônerie, vous êtes missionné même pour l'aumônerie des gens du voyage. Alors, commençons par le début. Quand on dit gens du voyage, c'est un terme générique. Disons que, en général, avant de détailler les différentes réalités, depuis quand, enfin, d'où viennent en fait ces gens du voyage, docteur Giraud? Est-ce que on a tendance à, enfin, on a coutume de dire que ces gens viennent d'Inde. Alors, est-ce que les informations sont justes?
Voilà, oui. De qui parlons-nous? Alors, effectivement, ce que nous ont appris les historiens, ce que nous ont appris les linguistes, ce que nous ont appris les hémotypologistes, c'est qu'on sache, sans connaître la raison, que vers le Xe siècle, un groupe d'hommes, de femmes, d'enfants de vieillards ont pris la route en partant du nord-ouest des Indes. Et ils ont donc cheminé dans le temps et dans l'espace pendant plusieurs siècles, parce que ces premiers groupes identifiés en France l'ont été vers 1420. Ça fait 420 ans hein, pour arriver jusqu'à chez nous. L'histoire est importante parce qu'elle permet de définir effectivement les différents groupes. Il y en a quatre hein, importants. Ceux qui seraient arrivés en France par le nord de l'Europe, dont le groupe des Manouches, parlant une langue manouche et ayant des noms à consonance germanique.
C'est ceux aussi qu'on a tendance à appeler les Bohémiens ou ça n'a...
Non, voilà, t'as les... Moi, je ne parle pas des Bohémiens. Moi, je parle des Tziganes, avec un S et pas un Z, parce qu'il ne faut jamais écrire Tzigane avec un Z, parce que le Z, c'est ce qu'ils étaient tatoués sur leurs bras par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Zigeuner, voilà. Donc, moi, je parle des Tziganes, avec un S, avec quatre groupes encore une fois. Alors, on les appelait Bohémiens, donc tout ça, effectivement, ça ne fait que mélanger les choses. Les Manouches, qui ont une culture, qui ont une langue qui est toujours parler. Ceux qui sont arrivés par le sud de l'Europe, jusqu'à chez nous, et qui sont aujourd'hui surtout dans la péninsule ibérique, ce sont les Gitans. Les mêmes migrations. Et puis ceux qui sont passés par l'Europe centrale, qui malheureusement ont été asservis pendant des siècles. Ils ont été libérés de leur esclavage qu'en 1750. C'est là que les premiers Roms sont arrivés jusqu'à chez nous. Et d'ailleurs, c'est ce groupe de Roms, cette même histoire, arrivé chez nous après la libération de l'esclavage, sont ces mêmes groupes qui ont traversé l'Atlantique, puisqu'il y a aujourd'hui une communauté Roms, États-Unis, Canada, Brésil, Argentine, Chili, Mexique. Les groupes Roms, et qui se revendiquent toujours Roms. Ce qui veut dire combien ils sont attachés à leur culture, y compris à leur histoire. Un quatrième groupe, qui n'a rien à voir avec cette histoire, des Indes, c'est le groupe des Yéniches, qui eux étaient dans des pays alémaniques, au moment où il y avait des guerres entre les différents États alémaniques, voilà. Et comme d'habitude, pendant les guerres, ce sont les plus pauvres qui en souffrent. Et donc, certains, comme d'ailleurs en Irlande, ont pris la route pour aller voir ailleurs si ce n'était pas mieux pour eux et pour leurs enfants. Le groupe des Yiddish. On retrouve ce phénomène en Irlande, hein, où lorsque Cromwell a voulu affamer les Irlandais, certains ont pris la route donnant le groupe des tankers et des gypsies. Ouais. Et du coup, c'était important. Dans les Ziganes, voilà, trois grands groupes, tout... encore une fois, et j'en termine, ce qui me paraît très important, c'est que dans cette longue histoire, jusqu'à chez nous, voilà, on retrouve dans ces trois groupes les mêmes socles culturels. Voilà. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la culture zigane.
Alors, quels sont ces socles culturels communs dans ces cas-là?
Mais si vous voulez qu'elle parle de socles culturels, quand je dis culture, moi, je ne parle pas simplement de la peinture, de la sculpture, des écrivains, de la musique. Je parle du rapport qu'ont les gens, du rapport qu'ils ont aux autres, du rapport qu'ils ont à la vie, du rapport qu'ils ont à la nature. Et là, les Ziganes m'ont beaucoup appris.
Alors, il faut, oui, on peut dire quand même un mot, c'est-à-dire que vous êtes enfin, l'ancien de la bande, et donc vous êtes, enfin, il semble-t-il, une figure locale d'amitié avec cette communauté. Au long de l'histoire de l'Europe, il y a, semble-t-il, aussi des périodes qui ont été enfin, plus ou moins difficiles, et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une période en fait, relativement enfin, heureuse ou plus facile aux alentours du 14e, 15e siècle, pour les Tziganes, enfin pour les donc les Tziganes, puisque c'est le terme générique que vous utilisez, où ils étaient relativement protégés, ou en tout cas la situation était meilleure qu'aujourd'hui.
Ils avaient effectivement des lettres de protection, ils en avaient une du roi de Bohême, c'est pour ça qu'on les appelait les Bohémiens, hein, d'ailleurs, voilà. Ils avaient des protections, et ils ont été effectivement tolérés, y compris jusqu'au moitié du 19e siècle.
Hein, il voilà. Paraît qu'on appelait ça le siècle d'or pour les
Tziganes. Oui, voilà, jusqu'au 19e siècle, ils étaient à peu près tolérés dans leurs différences. Voilà. Il faut rappeler quand même la loi de 1912, sur laquelle on a les attendus, qui a mis en place le carnet anthropométrique, où ils étaient fichés l'âge de 3 ans de face et de profil, et où ils devaient faire tamponner par la gendarmerie ce carnet lors de chaque déplacement. Lorsqu'on lit les attendus de cette loi, elle était faite pour qu'ils quittent la France. Voilà. Bon, ben, ils n'ont pas quitté, quoi. Parce que ils ont appris à résister pendant des siècles à tout ce qui a été, pour eux, l'exclusion, le rejet, dont ils sont encore victimes. Il n'y a qu'à voir comment, aujourd'hui, les Roms, migrants, roumains ou bulgares, qui sont des Tziganes, comment ils sont traités en France, de façon indigne. Il faut savoir qu'on estime la population rome migrante en France à 20 000 personnes. Et on veut nous faire croire que 20 000 personnes foutraient en l'air ce pays. C'est indigne. Notre pays ne peut pas savoir accueillir 20 000 personnes qui ont quitté la Roumanie et la Bulgarie parce que leurs conditions aujourd'hui là-bas sont extrêmement difficiles.
Alors, peut-être avant qu'on parle qu'on vienne sur la loi de 1912 et la loi de 1905, les heures sombres, alors, on imagine, vous dites, est-ce que, hormis cette période, ce siècle d'or, ou alors entre, vous disiez, donc le 15e et le 19e siècle, où ça allait à peu près pour eux, ils ont toujours été victimes de rejets ou de persécutions, à l'image de ce qui a pu se passer pour la Seconde Guerre?
Toujours, en France et dans tous les pays d'Europe. Toujours. Il faut rappeler que Louis XIV a envoyé tous les hommes aux galères, voilà, en pensant qu'il allait ainsi éteindre cette race, entre guillemets, de gens indésirables. Voilà. Mais plus près de nous, quoi, et la loi de 1912, j'en ai parlé, plus près de nous quand même, hein, on oublie qu'à côté de la Shoah, il y a eu 600 000 Tziganes exterminés dans les fours crématoires du nazisme. On ne fait que redécouvrir que pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, ont été mis en place par la Troisième République, et non pas ici, des camps de concentration pour les Tziganes, dont ils ont été libérés, les familles, qu'en 1946, il y a longtemps que le territoire français était libéré. On les avait oubliés dans ces camps. Voilà. Et ça, c'était en France, mis en place par la Troisième République et maintenu par la Quatrième République.
Alors après, donc il y a cette loi de 1969, donc loi française, qui regroupe un peu toutes ces personnes donc sous une expression qui s'appelle donc l'expression des gens du voyage. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette loi de 1969 et est-ce qu'elle a amélioré, on va dire, leur situation ou leur intégration en France après cette loi de 1912 que vous décrivez comme injuste?
Elle a supprimé le terrible carnet anthropométrique, ok, mais elle a continué à maintenir ces personnes, ces hommes, ces femmes, comme des sous-citoyens, puisque, bien qu'étant en France, pour certains, depuis 1420, voilà, on me pose souvent la question de savoir, mais est-ce qu'ils ne sont pas étrangers? Alors je dis, bon, ils sont en France depuis 1400, parce que ta famille n'est pas en France depuis aussi longtemps. Voilà. Ils restent sous-citoyens, soumis donc au titre de circulation, soumis à une différence au niveau de leur citoyenneté d'électeur, puisqu'il faut qu'ils soient rattachés au moins depuis plus de 3 ans dans une commune pour pouvoir voter. Donc cette loi 69 devrait être abrogée. Ça fait quelques années qu'on en parle, elle n'est à cette heure-ci, à ce jour, toujours pas abrogée. Et moi, je milite avec d'autres pour qu'ils soient des citoyens à part entière.
Alors, il faut dire justement que la plupart sont français, et la grande majorité de ces tziganes, donc, on dit gens du voyage ou tziganes, sont des sédentaires en France aussi.
Alors, très rapidement, quoi, la distinction sédentaire-voyageur est un peu manichéenne. Vous avez les sédentaires qui, pour des raisons diverses, vont aller ailleurs, quoi, pour des événements familiaux, pour des événements cultuels, pour des raisons économiques, ils vont partir ailleurs. Voilà. Donc la distinction sédentaire-voyageur est un peu manichéenne, si ce n'est que dans ce pays, il n'y a jamais eu de loi contre la libre circulation, qui est un droit constitutionnel. Par contre, si les tziganes ne faisaient que voyager, on verrait la caravane passer, pas de problème. Par contre, ils s'arrêtent, ils stationnent. Et là, c'est là qu'ils ont des grosses difficultés qui ont été un peu levées par la loi de M. Louis Besson en mettant en place ce qu'on appelle les aires d'accueil.
On en parlera après, ça, oui.
Parce qu'il a quand même fallu attendre l'an 2000 pour qu'on parle d'accueil de familles arrivées en 1420. Ça ne fait que 600 ans.
Enfin, pour finir, sur le nombre de tziganes qu'il y aurait en France, alors vous me précisiez en préparant l'émission, et de fait, enfin, c'est une réalité, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, et pour cause, parce que sinon ça pourrait faire l'objet de discriminations importantes, mais on évalue à peu près à 400 000 personnes cette communauté, dont vous dites 20 000 Roms, c'est ça, si vous deviez faire le découpage entre...
Donc, moi depuis 1965, date à laquelle je me suis intéressé à ce groupe, j'entends toujours le chiffre de 300 000. Voilà, bien. Donc, quand je parle de 20 000, ce sont les Roms migrants actuels, depuis la chute des régimes communistes. Il y avait des Roms, déjà en France, depuis 1750, date à laquelle ils ont été libérés de leur esclavage dans les pays d'Europe centrale. Voilà. D'ailleurs, entre eux, les autres communautés, qu'elles soient manches ou gitans, ils ne vont pas vous dire que c'est des Roms, ils les appellent les Hongrois. Voilà.
Merci beaucoup, alors donc, docteur Guiraud, pour cette introduction, donc vous qui êtes un peu la mémoire des tziganes ici à Toulouse en Midi-Pyrénées. On fait une première pause musicale et puis après on va voir quelles sont vos conditions de vie, enfin qu'est-ce qui fait votre vie, logement, scolarisation, métier, pauvreté, etc. avec vous tous et puis avec vous Dali, on ne vous oublie pas.
Rassemble.
Voilà cette émission ce matin, donc gens du voyage, qui sont-ils? Avec le père Vincent Bassereau, donc aumônier des gens du voyage pour le diocèse de Toulouse, le frère Daniel, frère des écoles chrétiennes, ancien aumônier national des gens du voyage, docteur Guiraud qui est médecin et fondateur du CCPS, donc si j'ai bien compris, association locale importante et historique, et Dali, vous êtes mère de famille et vous êtes missionné pour l'aumônerie des gens du voyage. Alors maintenant on va s'intéresser un peu à ce qui fait votre vie quotidienne. Peut-être avant qu'on détaille le logement, la scolarisation, les métiers, etc. et vos conditions de vie. Vous, Dali, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous faites partie de l'aumônerie à Toulouse. Dans quelles conditions de vie vous êtes? Et puis qu'est-ce que vous voyez de la communauté? On imagine que c'est très différent peut-être aussi en fonction des, je ne sais pas si on dit des ethnies ou des populations qu'a décrit le docteur Guiraud un peu plus tôt dans l'émission.
Mais moi déjà, je suis sédentaire. J'ai toujours vécu en maison. La vie de caravane, j'y ai vécu un an, pas plus, mais je n'ai pas voyagé. En ce qui concerne l'aumônerie, c'est vrai que...
Alors, vous, juste, oui. Déjà, vous êtes quoi? Vous définissez comment? Vous êtes zigane?
Alors, manouche, moi, je suis un mélange. Je suis de...
Vous compliquez les affaires, voilà. Alors. C'est...
Mon père est espagnol et ma mère était manouche. Ça fait que je suis mélangée. Voilà. Et bon, j'ai appris l'espagnol, mais j'ai pas appris le manouche parce que c'était... Ma mère, elle ne nous parlait pas en manouche. Elle savait parler, mais la langue, elle la mettait pas dans la famille.
En tout cas, vous êtes sédentaire. Et est-ce que la plupart des gens que vous connaissez, de votre communauté ou autres, sont aussi sédentaires?
Non, pas tous. Non, non. Là, en ce qui concerne ma famille, les gens de ma famille, mes frères et mes sœurs, on est tous sédentaires. On a choisi, c'est par rapport au métier, c'est par rapport à la vie qu'on a choisi. Même par rapport à la scolarité des enfants, c'était plus important pour nous d'être sédentaires. Et après, j'ai des gens de ma famille, par rapport à leur travail, qui sont sur le voyage. Ouais.
Mais alors, puisque vous représentez un peu la communauté des gens du voyage ce matin, vous direz qu'en général, les gens du voyage ont des conditions de vie relativement difficiles, ou est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est une fausse idée qu'on a en tête?
Franchement, moi, pour moi, notre vie, elle est difficile. Mais elle est belle en même temps, parce qu'on garde toujours cette liberté en nous de choisir les endroits où on veut vivre, d'être nous-mêmes et d'avoir toujours se garder ce lien de famille quand il y a quoi que ce soit, faire des fêtes, se réunir, ça c'est le plus important pour nous.
Alors, on va commencer par le logement. Donc, en 1990, si je ne me trompe pas, donc il y a une loi qui a été votée, donc la loi Besson, qui oblige les villes de plus de 5000 habitants à prévoir des conditions de passage des séjours des gens du voyage, c'est-à-dire de prévoir des terrains où les gens du voyage puissent se poser. Docteur Guiraud ou les uns les autres, n'hésitez pas. Hein. Est-ce que cette loi Besson, ça a été un tournant important déjà dans la question du logement? Et puis, je ne sais pas, comment est-elle appliquée?
Alors, la loi de 90 n'a pas été bien appliquée, d'où il y a une seconde loi plus efficace en l'an 2000, qui mettait en place donc les aires d'accueil pour ce qu'on appelle les gens du voyage. Et je rappelle que c'est la première fois que l'on parlait d'accueil. Donc, merci à M. Besson d'avoir travaillé ardemment pour qu'en fait soient accueillies ces familles. Les aires d'accueil, ça résout une partie des problèmes, hein, puisque avant les aires d'accueil, lorsque les gens voyageaient et qu'ils stationnaient où ils pouvaient, ils étaient toujours en stationnement illégal. Donc assez rapidement, arrivaient les forces de l'ordre pour leur dire « allez voir ailleurs si c'est pas mieux ». Donc au moins cette loi a permis à des familles de pouvoir stationner sans être obligées de partir rapidement de l'endroit où ils s'étaient arrêtés. Par contre, ça répond à une partie des familles. Ça ne règle pas, de façon générale, l'habitat. Dali vient de dire combien chez eux est important le groupe familial, qui n'est pas la famille nucléaire comme chez nous. Le groupe familial, c'est les ascendants, descendants collatéraux. Vous ne verrez jamais une caravane seule, jamais, sauf exception. Ça veut dire que vous verrez un groupe familial qui va s'arrêter
et
s'assurer.
Et alors qu'est-ce que ça a comme incident sur le logement, ça c'est...
Mais
c'est,
si vous voulez, c'est qu'en fait, les aires d'accueil ne règlent pas tous les problèmes et que devraient être mis en place, mais il y a beaucoup de résistance de la part des communes, ce qu'on appelle les terrains familiaux. Lorsqu'une famille souhaite acheter un terrain pour mettre son groupe familial avec plusieurs caravanes, il y a souvent le refus de la mairie d'accepter cette situation. Alors que ça répond en partie, effectivement, au problème d'habitat. Et après, faut pas s'étonner si on les retrouve dans des cités, dans des quartiers dits sensibles, hein, voilà, à Toulouse, les Isards, à Marseille, les cités nord, à région parisienne, les cités des banlieues, où on retrouve des familles sédentarisées qui sont dans ces cités. À Toulouse, hein, il y a trois cités, Picarel, Les Chênes, Damour de Florence, qui sont, comme je le dis souvent, au plus loin de la place du Capitole, voilà, et qui sont des cités ghettos, avec toutes les conséquences de cette ghettoisation de ces familles.
Frère Daniel, peut-être sur cette, vous qui avez été aumônier national, sur cette question du logement, qu'est-ce que vous diriez?
Je ne sais pas trop, hein. Ça veut dire que ça ne concerne pas tellement le problème de l'aumônerie. Le problème du logement est un problème de ghettoisation. Mais pour les voyageurs, ça influence sur les pratiques religieuses. Ça influence bien sûr sur l'école. Ceux qui sont en maison, la loi Besson n'en parlait pas. Enfin, elle, la loi 2000, oui, parle du logement, logement social, logement en dur, en maison. Par contre, les premières lois 90 de Besson insistaient sur l'accueil des voyageurs. Alors cette loi aujourd'hui, elle est, ou plutôt la réalisation de cette loi est faite peut-être à même pas 50%. Donc ça veut dire que beaucoup d'endroits, dans beaucoup de villes, il manque ces terrains. Sur Toulouse, il y en a quelques-uns, je sais, même en banlieue, mais ce n'est pas suffisant. Et sur ces fameux terrains d'accueil, en fait, les gens qui y viennent, les familles qui viennent sur ces terrains, ils restent très longtemps ou trop longtemps, de façon que ceux qui passent ne peuvent pas s'y mettre. Et en même temps, c'est un intérêt important d'y rester, parce que ça permet scolarisation, ça permet souvent hospitalisation, et une vie décente. Donc, ces fameux terrains, c'est encore aujourd'hui, je crois, un problème pour eux, en ce qui concerne la vie normale, le travail, trouver du travail, la scolarisation, et d'autres sujets, par exemple, comme je disais, la foi, l'expression de la foi est difficilement vécue si on est toujours sur la route.
Alors vous, vous êtes votre spécialité, on va dire, c'est la scolarisation. Comment ça se passe la scolarisation? Peut-être on peut dire un mot aussi en octobre dernier. Donc il y a eu une rencontre avec le pape François et les gens du voyage. Et à la faveur de cette rencontre, alors je dirais des extraits de cette rencontre au fur et à mesure de l'émission, le pape François, entre autres, a incité les familles à scolariser leurs enfants. Et en même temps, j'ai cru comprendre que la scolarisation des enfants des gens du voyage était souvent une question assez difficile ou assez problématique, et que la scolarisation était assez faible.
Alors moi, ça fait à peu près 35 ans que je suis avec les gens du voyage, surtout les voyageurs, les manouches. Et ça fait 35 ans que je participe à des congrès nationaux, des congrès européens. Et à tous ces congrès, il est question de scolarisation. Donc c'est bien que le pape enfonce une fois de plus le clou, mais il ne suffit pas de dire des choses. Il faut convaincre les familles, il faut convaincre les décideurs, pour que tous les enfants tziganes, on va dire comme ça, soient scolarisés. Bien que pour nous en France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, hein. C'est l'instruction. Ça veut dire que ces enfants qui sont d'une culture orale, qui sont, comme disait Dali, vivent une certaine liberté de comportement, liberté de rapport aux autres, tant que les parents ne sont pas convaincus que l'école est essentielle aujourd'hui, eh bien, ils vont toujours échapper à une instruction valable. Il y a peu d'élèves, il y a peu de gitans, je pense, peu de manouches qui passent le bac. Il y a certainement quelques-uns qui le font peut-être discrètement pour ne pas être repérés, mais on est étonné du fait qu'arrivés à l'âge de l'adolescence, les enfants échappent à la scolarisation. Alors, ce qu'ont fait les frères des écoles chrétiennes dans les 30 dernières années...
Mais pardon mon ignorance, mais la scolarisation, pourtant, c'est obligatoire, en fait.
Non. En France, c'est...
Surtout quand on est de nationalité française,
non c'est... Non, la loi, c'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Ça veut dire que votre enfant peut être instruit par vous-même.
Oui, mais encore faut-il en faire la preuve, non, qu'on l'instruit soi-même, c'est...
Oui, mais la loi le prévoit, il y a des contrôles qui sont prévus, mais qui n'ont pas lieu. Une famille qui instruit ses gosses doit déclarer. Alors, je dis ça parce que beaucoup d'enfants gitans ou manouches ne vont pas à l'école traditionnelle en dur. Bien qu'ils y vont maintenant de plus en plus parce que l'éducation nationale s'y intéresse davantage et essaie de faire des structures qui peuvent les accueillir nettement mieux, avec des classes passerelles, avec des SECPA, avec des CES, avec des...
Vous voulez dire que l'école s'adapte à ces enfants-là, c'est
l'école ça essaie de s'adapter, bien qu'elle ignore toujours que ces enfants sont de tradition orale. Et à l'école, il n'y a pas que l'oral, au contraire, et que ces enfants ont du mal à rester des heures et des heures dans un même lieu, enfermé.
Mais on a envie de dire comme tous les enfants,
non,
c'est une contrainte pour tout le monde
non
de rester.
Non, non, je ne pense pas. C'est une contrainte, oui, mais tous les enfants ne sont pas les mêmes. Ils ont une structure mentale qui n'est pas la même, je pense. Et les enfants gitans, je vous dis parce qu'ils sont très libres, j'ai vécu à Perpignan pendant très longtemps dans le quartier des gitans, les mamans gitanes n'acceptent pas que leurs enfants, leurs petits, aillent en maternelle. Elles ont du mal à confier leurs petits à d'autres personnes, à des gadgets.
Donc, les gadgets, c'est...
Les gadgets, c'est nous, ce sont les non-gitans. Donc, quand j'étais à Perpignan, on a créé avec la mairie une structure de préscolarisation animée par quatre mamans gitanes. Donc, c'est la confiance qui s'établit, et ces petits allaient, et ça existe encore, vont dans cette structure pour être préparés à rentrer dans la vraie école, comme on dit. Donc, alors il y a une question, je dis, de culture. Monsieur Guiraud parlait de culture. C'est vrai que dans leur culture, le rapport aux autres et le rapport entre eux ne favorise pas cette inclusion dans une structure que nous connaissons en France, scolaire, avec des horaires, bien sûr, avec des gens qui sont extérieurs à la communauté.
Alors, je parlais. Alors, juste, vous avez fait l'école mobile, c'est ça? C'est-à-dire voilà que vous arriviez avec votre caravane et vous faisiez l'école, en fait, dans des... Comment on appelle ça? Dans des camps ou dans des...
Alors, on ne parle pas de camp, on parle de terrain.
Terrain,
ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire encore la différence entre les gitans qui sont en France tous, pratiquement tous, sédentarisés, et les manouches, les guéniches et quelques roms qui sont, eux, en caravane en majorité. Donc, ces classes mobiles sont faites pour ceux qui voyagent encore, qui sont en caravane et qui sont sur des terrains différents autour des villes. Tous les gitans à Toulouse, normalement, vont dans une classe, la classe du quartier, l'école du quartier, ou voilà, avec peut-être un dent de scie ou... Les enfants qui sont en caravane ont difficilement la possibilité d'aller dans une classe en dur pendant longtemps. C'est pour cela qu'a été mis en place ces classes mobiles. Il y a un instituteur qui est rattaché à une école, une école privée en France, l'ACET, c'est l'Association pour la scolarisation des enfants tziganes qui a mis ça en place, à la demande de l'Aumônerie nationale de l'époque. Donc ils ont fait appel aux frères, et ces fameuses classes mobiles vont au-devant des enfants. Donc ce n'est pas l'enfant qui va à l'école, c'est l'école qui va chez l'enfant, dans les familles.
Docteur Guiraud, avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous pouvez, je commence à comprendre qu'il y a une distinction, c'est-à-dire la plupart des gitans, en fait, donc, seraient des gens qui se seraient sédentarisés, ce qui n'est pas le cas, ce qu'on vient d'entendre de la part du frère Daniel, donc d'autres communautés, donc comme les Manouches ou comme les Roms, c'est ça?
Alors, encore une fois...
Est-ce qu'il y a des conditions de vie, on va dire, très différentes, ou des réalités de vie très différentes entre gens du voyage?
Encore une fois, la difficulté de stationnement a fait... un certain nombre de familles se sont sédentarisées, rarement par décision positive, mais parce que ça devenait trop compliqué de voyager. Quand on voyage en station, et quand on stationne avant les heures d'accueil, qui aujourd'hui sont remplis, comme l'a expliqué le frère Daniel, il y a toujours difficulté pour stationner. Certains ziganes continuent à se battre dans leur association respective pour cette possibilité de continuer à voyager. Alors on va trouver cette sédentarisation dans tous les groupes, les Manouches. Les Gitans, eux, sont sédentarisés depuis plus longtemps. Ils sont sédentarisés depuis Isabelle la catholique. Je rappelle souvent que la seule ville de France où les Gitans sont sédentarisés au centre-ville, c'est quoi ? C'est le quartier Saint-Jacques à Perpignan, qui était sous l'autorité de la reine d'Espagne et du roi d'Aragon, et ils sont sédentarisés depuis ces deux dates-là. Et tout au long du Languedoc, on va trouver des Gitans sédentarisés depuis des générations. Les Manouches, les Roms, se sédentarisent de plus en plus, encore une fois, de par les difficultés de stationnement. Heureusement qu'il y a des moments dans leur vie où ils peuvent reprendre le voyage pour des raisons familiales, administratives ou culturelles.
Alors, juste avant qu'on aille un peu plus loin, qu'on aborde d'autres points, par exemple, qu'est-ce que font comme métier les gens dans ces communautés, la question du droit de vote ou de la délinquance. Dali, sur la question de la scolarisation, alors c'est vrai que vu de l'extérieur, on a un peu du mal à comprendre, on se dit, bon certes, on peut avoir une histoire, un tempérament, un mode de vie, mais l'avenir de ces enfants, c'est aussi, ou en grande partie, leur scolarisation. Donc pourquoi c'est si difficile en fait pour les tziganes de scolariser leurs enfants?
Mais parce que déjà, la plupart des gens du voyage, je parle pour ceux qui sont sur le voyage, qui circulent, qui ont des métiers, mettons paysagiste, pour des métiers de déplacement, parce que comme ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont rien du tout, ils sont obligés carrément de se déplacer, de faire des porte-à-porte aux maisons, de distribuer des prospectus. Et c'est là qu'ils obtiennent un travail pour nettoyer les toits, pour débroussailler les haies, tout ça. Ça rapporte, ça les aide à manger, à boire, à circuler. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire ce métier-là. Après, il y en a d'autres qui ont voulu rester sédentaires. Je prends pour ma part à moi, c'était un choix par rapport à mon fils, à mes enfants. J'ai voulu quelque chose de stable pour eux.
Oui, mais moins on est scolarisé, moins on a de diplôme, et du coup, plus on fait ce type de métier aussi.
Ah mais c'est sûr, ça, si on n'est pas scolarisé, on ne va pas avoir de diplôme, on va pas évoluer dans la société pour avoir des métiers concrets.
Mais comment les gens se positionnent par rapport à la scolarisation dans votre communauté? C'est-à-dire qu'il y a quoi? Il y a une certaine distance avec l'école, ou il y a une forme de...
Mais moi, pour ma fille, j'ai eu de graves difficultés. Autant pour mon fils, ça s'est bien passé. Là, il a un très bon métier. Il rassemble des pièces détachées sur Airbus. Il a galéré pour avoir ce métier-là, c'est vrai. On a passé par beaucoup de problèmes, mais il a réussi. Il a fallu qu'il galère, et pour obtenir ce qu'il avait à obtenir. Et pourquoi? Parce que des fois, il a eu des entretiens, parce qu'il était mat de peau, il avait peut-être un petit peu du mal à s'exprimer, c'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à être choisi parmi tant d'autres, mais il s'est battu vraiment pour avoir sa place. Après, je parle pour ma fille, la scolarisation, c'était catastrophique. Je ne pouvais pas la laisser en classe, elle n'arrêtait pas de... elle se sentait pas bien, il fallait tout le temps qu'elle se lève, qu'elle aille à la fenêtre pour respirer, des crises d'angoisse, tout le temps l'école m'appelait parce qu'elle était violente des fois, par des moments. Et à la fin du compte, c'était parce qu'elle restait renfermée, qu'elle n'était pas bien dans sa peau, qu'elle avait besoin de, d'être chez elle, d'être... voilà.
Elle avait besoin d'espace.
Oui, oui.
Alors, que font les comme métier, les, en général, les tziganes en France? Je ne sais pas, peut-être, Père Vincent Bossereau, est-ce que vous sauriez répondre à cette question?
Le dire, là, encore mieux.
Eh bien, c'est paysagiste, la plupart du temps. Après, les élagages, nettoyage de toiture, la plupart du temps, c'est ça. Après, les paniers, c'est un peu plus rare maintenant, mais les paniers à nosier, la vente de paniers à nosier. Après, qu'est-ce qu'ils font? Les marchés, ah oui, les le marchés. Plus souvent, c'est les marchés. Ils vont sur les marchés, ils font de la vente de vêtements, la vente de tout ce qu'ils peuvent. La ferraille aussi, ça continue.
Les gens font la ferraille. Pour les municipalités aussi.
Aussi. Il y en a qui sont employés de mairie. Moi, j'ai mon frère qui est employé de mairie.
Voilà, on a l'habitude d'entendre dire que les gens du voyage vivent pour une partie dans une relative précarité, dans une relative pauvreté, c'est par ailleurs. Est-ce que l'un ou l'autre veut réagir sur ce sujet, frère Daniel?
J'ajouterais à ce que dit Dali, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes garçons, travaillent aussi avec Internet. Je connais un garçon qui est sur Toulouse, qui est en caravane, qui vend des pneus grâce à Internet. Dites-moi la question, parce que
non, c'est pas grave, on va continuer, on va enchaîner. J'avais une dernière question pour vous, docteur.
C'est vrai qu'en tout cas, la question des auto-entrepreneurs, ça se développe beaucoup. Voilà, dans le domaine de la vente, des voitures.
Oui,
des
voitures aussi, ça marche beaucoup.
Voilà, donc docteur Guiraud, dernière question avant qu'on fasse une deuxième pause musicale sur la question de la délinquance. Évidemment, les gens ont ça en tête. Parfois, c'est vrai que, hier en parcourant la presse, évidemment, j'ai vu ne serait-ce que pour Midi-Pyrénées un certain nombre de faits divers. Il y a eu des événements, entre autres les événements de Moirins, donc je crois que c'était en 2014, si je ne me trompe pas. En tout cas, donc des manifestations assez importantes qui ont choqué un peu l'opinion publique. Que dire de la délinquance des gens du voyage en France?
Il y a des délinquants du voyage comme il y en a chez nous. La différence, c'est que lorsque chez nous, un Aveyronnais commet un délit, on ne va pas accuser tous les Aveyronnais d'être délinquants. Lorsqu'un gitan, un tzigane commet un délit, c'est toute la communauté qui emporte la responsabilité. Donc ça, c'est déjà une différence importante. J'ajoute aussi que chez eux, il n'y a pas de délinquance en col blanc, c'est-à-dire celle qui nous vole des millions d'euros. Ceux-là, ils sont protégés. Voilà, les voleurs de pain, il y en a, ou les voleurs de poules, comme dit un de mes amis tziganes, aujourd'hui, c'est plus les poules qu'on vole, c'est les dindes, c'est un peu plus gros, et il a beaucoup d'humour, voilà. Donc cette image de délinquance, il faut à la fois dire que ça existe chez eux comme chez nous, voilà. Il ne faut pas que ça rejaillisse sur toute la communauté. Et enfin, c'est ce qui était évoqué il y a quelques instants, c'est toute la question de l'insertion professionnelle. Rapidement, la communauté tzigane est aussi plurielle que la nôtre au niveau socio-économique. Donc ils sont très riches, moyennement pauvres et très pauvres. La majorité se trouve quand même en bas de l'échelle au niveau socio-économique. La plupart sont pauvres ou très pauvres.
La chaudra, bonne route, la chaudra, bonne route.
La chaudra, à ceux qui ont un cœur de peau, le royaume de Dieu leur est accordé.
La
chaudra, bonne route, la chaudra, bonne route. La chaudra, à ceux qui ont des larmes aux yeux, car le Seigneur saura bien les consoler.
La chaudra, bonne route, la chaudra, bonne route.
La chaudra à ceux qui vivent la douceur, car ils auront la terre à se partager. La Tchodrome à ceux qui font miséricorde, le pardon de Dieu leur sera accordé.
La Tchodrome, la Tchodrome,
la Tchodrome à ceux qui bâtissent la paix, car ils seront appelés des fils de Dieu.
La Tchodrome, la Tchodrome, la
Radio Présence à Gourdon, 104.8. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, une émission aux gens du voyage, qui sont-ils? Donc, immersion dans la vie des gens du voyage avec le père Vincent Bassereau, aumônier des gens du voyage pour le diocèse de Toulouse, le frère Daniel, qui est frère des écoles chrétiennes et qui a été aumônier national des gens du voyage, le docteur Guiraud, figure locale, médecin et fondateur du CCPS, et puis Dali, mère de famille et missionné pour l'aumônerie des gens du voyage. Alors, j'en disais un mot un peu plus tôt dans l'émission, il y a eu une rencontre il n'y a pas longtemps avec le pape François, des gens du voyage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Père Vincent Bassereau? Donc c'était, comment dire, cette rencontre a eu lieu en octobre 2015. Ça a été un moment fort et je crois que Midi-Pyrénées était assez bien représenté.
Oui, c'est ça. Alors c'était un événement très important qui lui-même était l'anniversaire de notre événement. C'est-à-dire que il y a 50 ans, le pape Paul VI avait invité pour la première fois tous les catholiques voyageurs à Rome. Et ça avait été un très très grand pèlerinage qui avait beaucoup marqué tous ceux qui y ont participé. Et à cette occasion, le pape Paul VI avait couronné une statue, la statue de Notre-Dame des Gitans, qui va de pèlerinage en pèlerinage, et notamment à Lourdes, où il y a un pèlerinage annuel très important chaque année. Et donc le pape François a voulu fêter le 50e anniversaire de ce couronnement de la statue de Notre-Dame des Gitans, et il a invité les voyageurs du monde entier. Donc c'était un rassemblement effectivement très nombreux, très 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 joyeux, très très important, et nous sommes partis avec un quart de Midi-Pyrénées. Nous étions 60 voyageurs qui avons passé 4 jours à Rome.
Et vous avez remis donc une statue,
non? Et alors on a remis la reproduction d'une statue de Notre-Dame des Gitans aussi au pape, qui avait été faite spécialement à cette occasion.
Oui. Voilà, alors on peut citer quelques extraits. Le pape François qui dit « Je vous remercie d'avoir voulu commémorer ensemble la rencontre historique du bienheureux Paul VI avec le peuple gitan. » Paul VI qui avait dit à l'époque « Où que vous vous arrêtiez, on vous considère comme important et étranger. » Ici, vous trouverez quelqu'un qui vous aime, vous estime et vous apprécie. Voilà. Et puis, un peu plus loin, le pape François qui disait « Permettons donc à l'évangile de la miséricorde de secouer nos consciences et ouvrons nos cœurs et nos mains aux plus démunis et aux plus marginaux, en commençant par celui qui nous est le plus proche. » Et donc, évidemment, il devait penser en partie aux gitans.
Et il avait repris une très belle phrase du pape Paul VI, et repris aussi par Benoît XVI. Et finalement, on voit la continuité des papes. C'est-à-dire, le pape leur avait dit « Mais vous n'êtes pas aux périphéries de l'Église, mais vous êtes au cœur de l'Église. » Voilà, c'était une phrase très importante pour montrer la place, justement, des voyageurs catholiques dans l'Église.
Voilà, la phrase exacte, c'est donc « Dans l'Église, vous n'êtes pas en marge, mais par certains aspects, vous êtes au centre, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans le cœur de l'Église. » Donc on imagine que ça a dû les toucher. Alors, est-ce que tous les gens du voyage sont chrétiens ou de culture chrétienne? Ou est-ce qu'il y a certaines communautés qui le sont plus que d'autres? Et quand ils ne sont pas chrétiens, en quoi croient-ils dans ces cas-là?
Alors, oui, vous avez raison. Alors, si on prend les gens du voyage très globalement, je ne dirais pas qu'ils sont tous chrétiens ou catholiques. Hein, par exemple, notamment les Roms, il y a des orthodoxes et puis il y a aussi même des musulmans. Mais pour ma part, si je peux parler de la France, je dirais que, fait dans l'histoire, ils sont devenus chrétiens et même très longtemps, ils ont été catholiques, avec une place un petit peu à part. Hein. C'est pour ça que l'aumônerie a été créée quand même, pour intégrer plus cette foi à l'intérieur même de l'Église. Mais voilà, ils étaient catholiques. Et puis, par contre, il y a, depuis les années à peu près 60, effectivement, il y a une distinction, enfin, un peu une division aussi, il faut dire, à l'intérieur des chrétiens entre catholiques et église évangélique ou pentecôtiste. Donc c'est quelque chose d'important.
Alors justement, il faut en parler. Je ne sais pas si c'est vous ou si le frère Daniel peut dire un mot là-dessus, puisque vous avez été aumônier national. Mais de fait, aujourd'hui, les évangéliques sont tentants pour une partie de la communauté des gens du voyage, et ça marche, frère Daniel, peut-être.
Oui, notre difficulté, je crois, c'est qu'on n'a pas su, l'Église catholique, l'aumônerie des Gitans, n'a pas su, on va dire, s'adapter à ce monde du voyage. Ça veut dire que tous ceux qui ont été animateurs de l'aumônerie nationale ont été des gadjés, donc des gens qui n'étaient pas tziganes, avec une culture d'église, une culture, on va dire, romaine, avec tout un côté réflexif,
sédentaire,
tout à fait. Et alors que les évangéliques ont su, enfin, les pasteurs qui sont occupés d'eux dès le départ, ont su les mettre en mouvement, les ont formés. Et aujourd'hui, en France, il y a des centaines d'hommes, manouches, roms, gitans, qui sont pasteurs. Avec une formation que nous, de temps en temps, nous critiquons parce que nous la trouvons pas très approfondie, mais quand même, ce sont des hommes du milieu qui évangélisent leurs frères. Et chez nous...
Donc vous voulez dire que l'aumônerie catholique se porte pas bien chez les tziganes en France?
Je dis qu'elle n'a pas su...
Elle a tendance à devenir protestante?
Non, je dis que l'Église catholique n'a pas su se mettre au niveau des gens qu'elle évangélise. Ça change, mais ça met très longtemps à changer. Ça veut dire que l'aumônerie existe depuis 50 ans. Depuis 50 ans, ça a toujours été des prêtres religieux, religieuses, gadgets qui ont été les pilotes de cette aumônerie. C'est la première fois, depuis septembre, que l'aumônerie est pilotée, animée par deux tziganes, deux manouches. En 50 ans, nous avons eu en France deux prêtres issus de la communauté tzigane.
On a eu qui ont été prêtres pour les communautés tziganes,
oui,
aussi.
Qui sont prêtres, mais qui sont aussi en paroisse, qui sont prêtres diocésains. On a eu quatre diacres et deux religieuses. Ça veut dire qu'on a, je pense, un gros déficit au niveau vocation dans l'Église catholique. Et c'est un problème qu'on pose aujourd'hui. Comment faire pour que des jeunes, des adultes, il y a bien sûr les lettres de mission sur lesquelles on a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de laïcs à mission ecclésiale chez les gitans et les tziganes. Hein, mais c'est des missions temporaires. Mais c'est quand même déjà un gros effort que l'aumônerie fait, que l'Église fait et que des évêques acceptent. Aujourd'hui, il faut passer un niveau supérieur en parlant beaucoup de formation, parce que les gitans, les jeunes voyages, se sentent démunis quand ils se trouvent face à des évangéliques qui parlent beaucoup, qui disent des choses qui les perturbent.
Dali, vous me disiez un petit peu plus tôt, à l'occasion, enfin avant qu'on commence l'émission, vous me disiez qu'en fait la communauté gitane, en fait les hommes avaient du mal à s'impliquer dans cette vie d'église et qu'ils étaient tentés justement par l'aventure évangélique. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Moi je crois que j'ai trouvé l'explication un petit peu, une part quand même. Dans l'église catholique, il n'y a pas beaucoup de prêtres voyageurs ou gitans ou quoi que ce soit, parce que la famille, c'est important chez nous. Et si on n'a pas formé une famille, pour nous, il y a toujours ce manque de quelque chose. Et moi, je pense à l'homme voyageur, à l'homme gitan, c'est ça qui manque. De devenir prêtre, il a peur. Il a peur parce que s'il devient prêtre, il a Dieu, il est comblé par Dieu, c'est sûr. Mais il n'aura pas sa famille. Il n'aura pas ses enfants, sa femme, un noyau où venir se recueillir ou vivre. Voilà, c'est ça en vérité. Et chez les évangélistes, on le retrouve. Ils ont le droit de se marier, ils ont le droit de fonder une famille. Et ça les motive plus, je pense, pour aller de l'autre côté.
Père Vincent Bassereau, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a des rites ou des traditions particulières, on va dire, aux gens du voyage au sein de l'Église catholique? Est-ce qu'il y a des choses marquantes que vous voulez partager?
Alors, bon, moi je voudrais dire d'abord que quand on est nommé aumônier chez les gens du voyage, il y a une chose qui frappe et qu'on découvre, c'est qu'il y a la foi très profonde. C'est-à-dire qu'un voyageur, il croit en Dieu. Voilà, je dis pas que la vie est parfaite, je dis pas qu'il sait comment est constituée l'Église, mais il croit en Dieu et il est intéressé par Dieu, par la parole de Dieu, notamment la parole de Dieu, écouter, parler de Dieu. Voilà. Alors ensuite, comment il vit sa foi? Ben là, justement, on peut vérifier, quand je faisais des pèlerinages un peu dans toute la France, quand j'étais pour l'aumônerie nationale, je voyais bien qu'il y avait des très grandes différences entre la façon dont un manouche vivait sa foi, un espagnol, un catalan. Mais il y a quand même des constantes, à mon avis. Et une des constantes très importantes, c'est quand même le pèlerinage. C'est-à-dire que c'est en allant de lieu de pèlerinage en lieu de pèlerinage, en allant vénérer des saints très populaires, que les voyageurs ont eu la foi qui s'est maintenue. Donc il y a au moins ça. Les pèlerinages, ils sont très sensibles aussi à la dimension des bénédictions. Par exemple, on fait des bénédictions de maison, des bénédictions de caravane. Partage de la parole de Dieu me semble important. La prière spontanée, le baptême aussi est très, très marqué, très préparé, l'occasion d'une évangélisation. Voilà. Et puis...
Vous voulez dire qu'aussi autour des morts, il y avait des
rites particuliers. Oui, alors voilà, bien sûr. Tout ce qui touche la mort est très important, même par rapport à nous, je dirais, ça pour moi, je trouve ça très très beau. C'est-à-dire que quand il y a un deuil sur un terrain, ben on le sait de suite, la vie s'arrête, toute la famille est revenue, ça peut durer 2-3 jours. Et donc là, il faut prendre le temps d'aller prier, veiller le défunt, de bien marquer une très belle célébration, d'accompagner totalement jusqu'au cimetière. Voilà. Et puis, c'est aussi l'occasion de dire quelque chose quand même aussi sur la communion des saints, parce qu'il peut y avoir parfois des petites croyances en les esprits, tout ça, qui est pas totalement christianisé. Mais effectivement, c'est un moment très très important de l'évangélisation et de la vie de foi des voyageurs, ce qui touche aux défunts.
Il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que vous diriez à l'intérieur de l'Église? Je disais en introduction, ils ont peut-être une place particulière dans la société française. Alors ça, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais au moins dans l'Église, fort de votre expérience, vous savez, il y a donc 10 ans que vous êtes aumônier, qu'est-ce qu'ils ont à apporter dans l'Église ou qu'est-ce qu'ils disent de particulier?
Moi, je pense que les voyageurs, ils ramènent à l'essentiel. C'est-à-dire la foi, c'est Jésus, c'est Marie, c'est le mystère de la résurrection. Les saintes, Sainte Marie Jacobée, Sainte Marie Salomé, c'est le grand pèlerinage des voyageurs, sont les saintes qui ont témoigné du Christ ressuscité en arrivant dans notre pays, et les premières. Et moi, je pense que les voyageurs, ils restent religieux, profondément attachés même à la personne de Jésus, alors que notre société se sécularise totalement. Donc ils nous ramènent déjà au cœur de la foi. Pour eux, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, ils nous disent aussi, il faut peut-être être plus simple, Daniel le disait, des fois l'Église, on se soucie beaucoup d'une catéchèse très, très structurée, c'est une bonne chose, mais il y a une première annonce des mystères centraux de la foi, la mort, la résurrection, la passion du Seigneur, le chemin de croix compte beaucoup. Donc en ce sens, je dirais que les voyageurs nous recentrent sur l'essentiel. Et en même temps, ils nous montrent que pour eux, l'essentiel, c'est la foi.
Eh ben, merci beaucoup à nos invités d'être venus un peu nous aider à voyager, donc justement avec les gens du voyage, à apprendre à les découvrir. On refera d'autres émissions. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.